Juste un petit mot avant de commencer, tu trouveras en descriptif de cet épisode un lien qui te permet d'avoir accès à une série de 9 mails pour découvrir mon meilleur système d'organisation mis à jour régulièrement. N'hésite pas, tu pourrais bien apprendre des choses. Dans ce podcast, nous allons parler de la version avancée de la méthode d'organisation Getting Things Done. Je suis Cédric Watine et tu es sur Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. GTD ou Getting Things Done est la méthode d'organisation personnelle la plus répandue dans les grandes entreprises. Elle permet de s'organiser au quotidien. Ce qui est moins connu, c'est la partie la plus avancée de la méthode, celle qui aborde les principes, la vision et les objectifs. Jean-Luc Koenig revient sur Outils du Manager pour la deuxième fois, et cette fois, nous allons aborder cette partie-là de la méthode GTD, la partie moins connue, la partie qui va nous permettre de connecter nos principes de vie avec notre organisation personnelle. Bonjour Jean-Luc, comment ça va ?
Bonjour Cédric, ça va bien, merci beaucoup.
Je crois qu'on ne s'est pas parlé, on a eu quelques échanges par mail, mais on ne s'est pas parlé depuis 2018. En fait, en 2018, on a fait une interview ensemble sur la méthode GTD ou Getting Things Done. C'est le podcast numéro 135, je crois, et il s'appelle « Enfin organisé avec GTD ». Et en fait, on avait eu pas mal de questions et de réactions par rapport à ce podcast, et vous avez été nombreux à manifester votre intérêt pour une deuxième partie complémentaire à la première. Donc on a mis un peu de temps à la faire, mais ça y est, on est à pied d'œuvre. Donc Jean-Luc, ce que je peux te proposer pour démarrer, c'est peut-être de te présenter rapidement pour ceux qui n'ont pas écouté le premier podcast, et puis de nous rappeler ce que tu fais dans la vie, en gros.
D'accord. Alors en fait, je suis professeur en école d'ingénieur en Rhône-Alpes, et j'ai fait toute ma carrière en tant qu'enseignant-chercheur, et j'ai eu l'occasion d'avoir des responsabilités administratives, notamment en tant que directeur adjoint d'un laboratoire de recherche, directeur des études d'une des écoles d'ingénieurs. Et puis, à un moment donné, c'était au début des années 2000, j'ai été appelé à la vice-présidence du groupement d'écoles d'ingénieurs, qui à l'époque était le plus grand groupement d'écoles d'ingénieurs en France. Mmh. Et là, les choses ont tourné de manière un peu bizarre pour moi, c'est-à-dire que j'avais toujours été plutôt quelqu'un d'efficace, d'organisé, qui savait répondre aux demandes. Et du jour au lendemain, j'étais confronté à des projets qui ont dépassé ce que j'étais capable de faire. Et d'ailleurs, on est venu vers moi pour me dire, Jean-Luc, est-ce que tu es sûr que tu es au bon poste ? Et c'est là où, finalement, j'ai commencé à plonger dans les méthodes d'organisation.
D'accord. Ok. Ouais, tu t'es senti submergé, en fait. Et puis, on t'a fait comprendre que ça ne pourrait pas continuer longtemps comme ça.
Alors, heureusement, l'histoire s'est quand même bien terminée. C'est que j'ai regardé ce qui se faisait à l'époque. Évidemment, je suis tombé sur la méthode de David Allen. Mmh. J'ai lu le livre et puis j'ai été tellement emballé que j'ai commencé à partager autour de moi. Et c'est là où je me suis dit, après mon mandat de vice-président, il y a quelque chose à faire. Et j'ai pris directement contact avec David Allen à l'époque. J'ai un de mes associés actuels qui avait fait la même démarche de son côté. On s'est retrouvés un peu fortuitement, en tous les cas sur Internet d'abord, et puis on a dit, au début des années 2010, si on démarrait une activité. Et aujourd'hui, puisque tu me posais la question de savoir ce que je fais aujourd'hui, donc j'ai encore un pied dans l'enseignement supérieur, puisque je suis à temps partiel sur mon poste de professeur. D'accord. Et puis l'autre temps partiel, dans cette société, InExcelsis, donc c'est un cabinet de formation et de coaching, sur tout ce qui est efficacité personnelle, et qui est où là je passe mon temps soit à former des cadres en entreprise, soit à accompagner des dirigeants en coaching en tête-à-tête.
D'accord. Sur le sujet de l'organisation personnelle, en fait.
Exactement. Exactement.
Parce qu'en fait, la méthode... David Allen, en fait, c'est le créateur de la méthode « Getting Things Done ». Et alors, je me souviens plus du titre en français. C'est pas « Enfin organisé » ou un truc comme ça.
S'organiser pour réussir.
S'organiser pour réussir. Et moi aussi, ça a été un bouquin qui a été une révélation pour moi. J'étais vraiment pas organisé pour le coup, et ça a été vraiment pour moi un changement radical. dans ma vie, hein, on peut le dire. Hein, en général, quand on est quelqu'un qui n'est pas du tout organisé et que tout d'un coup, on se rend compte qu'on peut l'être, quand on est quelqu'un qui est très créatif et que tout d'un coup, on se rend compte qu'on peut enfin réaliser tout ce à quoi on pense, c'est un énorme changement de vie. C'est pas qu'une méthode d'organisation, je pense qu'on va en parler. Non. Mais peut-être que tu pourrais nous résumer, mais très très vite, ce qu'on avait dit dans la première partie, très succinctement. Puisqu'en fait, ce qu'on a fait, la première partie, on l'a vu dans le podcast 135, donc que vous pouvez écouter. Mais ça fera pas de mal, en fait, de peut-être se remettre les bases en tête.
Bien sûr. En fait, tout part d'un constat, c'est que on est submergé et de plus en plus par des sollicitations. Alors ces sollicitations sont diverses. Ça peut être quelqu'un qui débarque dans mon bureau, ça peut être ce coup de fil que j'attendais pas, ça peut être ces emails qui s'entassent dans ma boîte mail, ça peut être tout simplement mes idées parce que mon cerveau fourmille et puis je me trouve à la maison et je pense à quelque chose qu'il faudrait que je fasse au bureau ou à cet email que j'aurais dû envoyer à mon collègue et que j'ai pas fait. Bref, comment je fais pour accueillir tout ça, pour décider de ce que je vais en faire et puis ensuite pour me mettre à faire ce qui doit être fait. Et ça se résume par un concept, c'est reprendre le contrôle sur ces sollicitations, ces engagements qui sont en face de moi. On avait vu que ça se déclinait en 5 étapes. Alors pourquoi 5 étapes ? C'est pas parce qu'il y a un comité de managers qui s'est mis ensemble autour d'une table et qui a décidé de la manière dont il fallait procéder. En fait, David Allen et ses équipes ont pris le contre-pied de ce qui se faisait dans le management à cette époque-là. Il faut voir que la méthode date des années 80 et puis a montré ses fruits, puisque aujourd'hui, c'est le standard dans les grands groupes internationaux et de plus en plus aussi au niveau des startups, des ONG, etc., des administrations. 5 étapes qui sont partagées par ces dirigeants qui réussissent particulièrement bien. Ils sont même aperçus que ces 5 principes, on les retrouvait aussi bien chez la mère de famille qui avait 3 enfants que chez quelqu'un qui venait juste de démarrer sa société ou qui réussissait bien au niveau de l'association dont il était en charge. Mmh. Et tout d'abord, c'est la capture. C'est collecter tout ce qui se présente à moi. Je ne sais pas s'il va falloir que j'agisse dessus ou pas, mais au moment où ça se présente, comme je n'ai pas envie d'avoir à repenser à la même chose une autre fois, eh bien, je vais le noter. Alors, noter, ça peut être noté papier-crayon, ça peut être noté avec une appli. En fait, là, on ne s'intéresse pas du tout à la question de l'outil. Simplement, on veut noter, on veut collecter. Ça, c'est la première étape.
Donc ça, c'est la capture.
Exactement. Et comme ça, on ne garde pas dans son cerveau. En fait, il y a une phrase assez classique là, qu'on utilise, c'est « je veux externaliser mon cerveau ». Et c'est ce qui, pour moi, a été le côté extrêmement fort de l'application de la méthode GTD, c'est-à-dire que du jour au lendemain, je me suis retrouvé avec un cerveau qui était vide. Et je ne dis pas vide au sens de je ne connaissais plus rien, mais vide au sens de il n'y a rien qui me parasitait, tout comme là, on est en train de discuter tous les deux, et je ne suis pas en train de penser à ces 3-4 emails que je devrais renvoyer, et puis ce dossier, etc. Non, mon cerveau est vide parce que je sais que j'ai noté les choses au bon endroit, dans mon système, et que je pourrai les retrouver dès qu'on raccrochera tout à l'heure de notre communication.
Oui, ça te donne une sérénité, en fait, absolue. Tu sais que tu n'es pas dépendant des ressources de ton cerveau pour récupérer ce que tu avais capturé, en fait. C'est déjà capturé, c'est déjà dans un système qui est extérieur, et tu pourras y revenir quand tu auras décidé d'y revenir.
C'est ça. Parce que malheureusement, on considère que notre cerveau, c'est un endroit où je dois stocker des choses, mais les gens qui sont spécialistes du fonctionnement du cerveau, nous disent, et depuis un certain nombre d'années, que le cerveau n'est pas fait pour retenir les choses, il est fait pour avoir des idées. Il n'est pas fait pour retenir les idées, il est fait pour avoir des idées. Et donc on a vraiment besoin de libérer cette énergie créatrice, et ça, ça peut se faire que si je ne suis pas encombré par d'autres choses. Donc première étape, la capture. La deuxième étape, c'est l'étape de clarification. C'est-à-dire que j'ai noté un certain nombre de choses, et puis là, j'ai des papiers devant moi qui sont dans ma babanette, de choses que j'ai capturées soit ce matin, soit hier soir, et que pour l'instant, je n'ai pas encore clarifié. Et il va falloir que je fasse passer ces choses-là, que j'ai notées un peu à la va-vite, par un processus qui va me conduire à une décision, un processus de question. Mais qu'est-ce que c'est ? De quoi est-ce qu'il en retourne ? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ? Dans ce cas-là, quelle est ma toute première action ? et puis quel est in fine le projet que je vise. Donc là, je vais très rapidement, on ne va pas rentrer dans le détail, mais on voit bien qu'il s'agit de décider. Ça ne veut pas dire que quand je prends une de ces notes que j'ai capturées, je m'engage à faire. Ça veut juste dire que je décide de ce qu'il faudrait faire. Et puis après, c'est une autre chose que de déléguer ça, que de le faire moi rapidement, peut-être que je vais le mettre en sommeil pour laisser maturer, peut-être au contraire que je vais décider de ne rien faire, mais en tous les cas, cette étape de clarification, c'est l'étape de décision. Ensuite, là, on est à la troisième étape, c'est l'étape d'organisation. Évidemment, quand j'ai décidé de ce que je vais faire, quand je suis arrivé jusqu'à la toute première action physique, tangible, qu'il faudra engager, eh bien, je vais mettre cette action-là dans mon système, au bon endroit, pour pouvoir le retrouver sans effort mental, encore une fois. Je veux pouvoir me tourner vers mon système, retrouver ce que j'ai à faire, là, dans l'instant, parce que j'ai juste peut-être trois quarts d'heure devant moi avant de passer au rendez-vous suivant. Qu'est-ce que je vais faire? Et donc, je retrouve ma liste. Et donc là, c'est un système qui est basé sur la notion de liste de contexte.
Ouais. C'est très différent de l'endroit où tu as capturé les choses. Là, on est dans une autre étape.
Tout à fait. Exactement. Tu peux tout aussi bien, et moi ça m'arrive la plupart du temps, capturer sous forme papier-crayon, et puis tu vas organiser, tu vas stocker les actions à faire, peut-être avec ton appli iPhone, peut-être sur ton ordinateur, peut-être ailleurs, dans un carnet, voilà, ça peut être différent. Ça c'était la troisième étape. La quatrième étape, c'est une étape de prise de recul, une étape de réflexion, une étape où je revois mon système, régulièrement, c'est plutôt tous les 7 à 10 jours, on appelle ça la revue hebdomadaire. Pourquoi ? Parce que entre le moment où j'ai noté les choses dans mon système et le moment où je viens dans mon système pour prendre les choses, s'il s'est passé un laps de temps de l'ordre de 7 à 10 jours, eh bien la vie a continué à évoluer alors que mon système, lui, peut-être n'a pas évolué. Donc il faut remettre en cohérence les éléments de mes listes par rapport à la vie telle qu'elle a évolué. Étape 5, c'est l'étape finalement de faire, c'est l'étape de prioriser sur l'instant. Prioriser en amont, c'est quelque chose qui ne marche pas. Tu t'en es aperçu, moi je m'en suis aperçu. Si le lundi matin je me dis cette semaine il faut que je fasse ça et puis je fais trois catégories ABC, etc. En général, quand j'arrive au vendredi, je me suis aperçu que j'ai fait des choses qui n'étaient pas notées sur ma liste ou qui étaient notées avec un faible niveau de priorité. Pourquoi ? Parce qu'au cours de la semaine, ça s'est avéré plus important que des choses que j'avais notées. Et à l'inverse, il y avait des choses que j'avais notées le lundi matin en priorité numéro 1, et puis le mardi, ça a été chamboulé, le mercredi, il a fallu finalement que j'aille précipitamment à telle réunion, et là, les choses qui ont été dites dans cette réunion-là ont complètement inversé l'ordre des priorités. Donc, on voit qu'on a besoin, pour être réactif, pour être agile, et c'est notre monde qui l'impose, parce que les sollicitations n'arrêtent pas d'arriver, à une vitesse d'ailleurs qui s'accélère, et j'ai besoin d'être en capacité de décider sur l'instant, de prioriser sur l'instant.
D'accord.
Voilà les 5 étapes qu'on a vues la fois dernière.
Oui, tout à fait. Donc si vous voulez un peu plus rentrer dans le détail, ben, allez voir le... D'ailleurs, il me semble que la dernière fois, on avait même fait 3 parties. Je crois que j'ai vu ça. Je m'en souvenais plus. Mais voilà, vous allez voir le podcast 135 et vous aurez beaucoup plus de détails sur chacune de nos étapes. Là, ce n'est pas l'objet du podcast. Là, l'objet du podcast, c'est de voir ce qui se passe après le niveau 1. Là, ce dont on vient de parler, c'est le niveau 1. Est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi les autres niveaux ? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la suite ?
Oui. Alors, le niveau 1, ça veut dire, c'est le niveau qu'on traite en formation. La formation classique, là, c'est une formation qui dure pendant 2 jours. À la fois, on présente les principes et à la fois, on va jusqu'à l'implémentation pour chacun des participants dans son propre écosystème avec ses outils. Donc, c'est une formation qui est très concrète. Et on l'appelle niveau 1 parce qu'elle s'occupe de tout ce qu'on vient de voir, qui est le niveau du contrôle. Reprendre contrôle sur ses engagements.
Et je crois aussi que c'est parce que la méthode GTD, c'est une méthode... on commence en fait par régler les problèmes dont on ressent le plus les symptômes, c'est-à-dire le fait d'être débordé, d'avoir tout en tête en même temps, d'être stressé, etc. Et ça, c'est vraiment, je trouve, intelligent de la part de David Allen d'être parti de ça, plutôt que d'être parti, d'avoir une démarche top-down. C'est-à-dire qu'il est vraiment parti du quotidien en disant « vous pouvez déjà régler tout ça très rapidement ». Et ensuite, on peut aller à un autre niveau. En management, la méthode que je propose, elle est identique. C'est-à-dire que je commence par régler le problème de base du manager, celui qui l'ennuie tous les jours, et après on construit là-dessus. Et c'est un peu l'inverse de ce qu'on fait souvent en France. Hein. Souvent en France, on part des grands principes, de ce qu'on veut dans la vie, et puis on descend. Et David Allen, il fait le contraire, en fait. Il prend ce qui nous ennuie le plus, et ensuite, tu vas nous dire ce qu'il nous conseille.
Tu as tout à fait raison, Cédric. Si j'ai un problème, parce que je suis parti de chez moi un peu précipitamment ce matin, et j'ai vu que la porte du garage ne se fermait pas correctement, et qu'en plus... j'ai reçu un email que je viens juste de lire et qui me dit que la réunion a été déplacée et ça m'embête parce que ça va repousser l'échéance du projet, etc. Et que je rentre dans une réunion avec mon N plus 1 et qu'on doit parler de stratégie, il est fort vraisemblable que dans ma tête, il y a des choses qui se télescopent. Mmh. Parce que je vais penser à cet email, je vais penser peut-être à mon problème à la maison du portail, etc. Si par contre, je sais que j'ai décidé sur ces choses-là, ce qui doit être fait et que c'est correctement placé dans mon système, je peux rentrer dans cette réunion de stratégie, être pleinement présent pour ce que je dois faire, et puis après, ben, je retrouverai ce soir, en rentrant à la maison, tous les éléments dans mon système si je veux m'attaquer à la question du portail ou d'autres choses. Mmh. Et donc, tu as raison, en général, le choix qui est fait, notamment avec l'approche francophone, c'est de se projeter à horizon de quelques années, tu veux aller où ? Et puis après, décliner à l'envers. Là, on fait l'inverse. Alors, David Allen parle d'horizons d'attention. Mm-hmm. Les horizons sont au nombre de 6. Mm-hmm. Ce que j'ai décrit pour les aspects contrôle, les 5 étapes, la capture, la clarification, l'organisation, la revue hebdomadaire et puis l'engagement, ça, c'est finalement le terrain, au jour le jour. C'est les sollicitations. C'est comment traiter des premières actions, comment traiter de son calendrier. C'est ce qu'on appelle l'horizon zéro. D'accord. Et je vais prendre les choses peut-être à l'envers pour raccrocher avec des choses qui parlent à nos auditeurs. L'horizon le plus élevé, l'horizon 5, c'est ce qu'on va appeler la raison d'être et les principes. Comment est-ce que je fonctionne ? Qu'est-ce qui m'anime dans la vie ? Mm-hmm. Qu'est-ce qui me plaît ? Comment est-ce que je réagis par rapport aux autres, etc. En fait, c'est mettre peut-être le zoom sur la manière dont je fonctionne. Et ça, pour toi comme pour moi, on sait assez bien ce qui nous anime. Ça vaut le coup de prendre un peu de temps, parce que c'est pas immédiat. Si on interroge quelqu'un dans la rue, il n'est pas tout de suite capable de me dire les choses, mais ma priorité, peut-être qu'au niveau familial, c'est que quand même, que ça se passe bien avec mes enfants, c'est que, etc. Et une fois que ces enjeux de survie ne sont pas menacés, je souhaite m'épanouir au quotidien. Et donc ça, c'est l'enjeu de la raison d'être. Pour concrétiser ça, il y a l'horizon 4, qui est juste en dessous. L'horizon 4, finalement, c'est la vision. Où est-ce que je me vois dans quelques temps, dans quelques années ? Qu'est-ce que je vise à long terme ? La vision, c'est plutôt sur le long terme.
C'est ce vers quoi je tends, en fait.
Oui. Et ça, c'est très intéressant, cet exercice, qu'on peut faire, d'ailleurs, on y reviendra peut-être, suivant là où la discussion va nous amener, mais cet exercice peut être fait pour moi, en tant que personne, mais aussi, dans le contexte de mon travail, ça peut être fait pour mon service, mon département, pour ma société. Et donc nous, je sais qu'au niveau d'Inexcelsis, on a fait ce travail à la fois pour nous-mêmes, bien sûr, mais on a fait ce travail au niveau de la société. Mm-hmm. Quelle est la raison d'être de la société, et puis quelle est la vision ? Donc raison d'être au niveau horizon 5, et puis la vision horizon 4. Et ce à quoi on aboutit, c'est que finalement, il va y avoir... Une distance. On va aboutir à une distance entre là où je suis, à l'instant où je te parle, mmh. et puis là où je souhaiterais être. Parce que quand j'exprime ma vision, c'est là où je souhaiterais être. Mmh. Et cette distance, comment est-ce que je vais faire pour la franchir ? Eh bien, la réponse à ça, c'est l'horizon 3. C'est les objectifs. Quels sont les objectifs que je vais mettre en place à un horizon plus court pour... Alors sinon atteindre, du moins me diriger vers cette vision que je viens juste de matérialiser.
Est-ce que ce sont pas un petit peu les étapes, on pourrait dire?
Alors oui, ça peut être les étapes, sauf qu'il n'y a pas forcément de séquentialité entre mes objectifs. Les objectifs, c'est l'horizon 3, c'est un horizon qui est peut-être plus court. Peut-être que je me dis que si je veux être, je reprends l'exemple de tout à l'heure, par rapport à la parentalité ou la famille, etc., si je veux être un meilleur papa, d'autant que j'ai les enfants qui vont être en âge de partir aux études, peut-être, et puis l'autre va être en âge, va être ado, bah peut-être que ça vaudrait le coup que je m'améliore sur certains aspects de tout simplement communication, ou être en capacité d'entendre la remarque de l'autre, parce que je réagis un petit peu nerveusement, etc. J'aimerais bien être un papa un peu plus cool. Et donc ça, c'est pas un objectif, on voit, qui peut être atteint en 3 semaines, mais c'est quelque chose où je peux me dire, bah, sur l'année qui vient, sur les 2 ans qui viennent, d'autant que j'ai quelqu'un qui m'a recommandé un bon bouquin, d'autant que j'ai quelqu'un qui a regardé ces questions-là avant moi. Voilà, je me donne un certain nombre d'objectifs. Mais ces objectifs, on voit qu'ils sont disparates au sens où ils vont concerner des sphères différentes. On vient de l'évoquer, il y a la sphère de la famille, il y a la sphère du travail, et même dans la sphère du travail, on voit qu'il y a des enjeux, parce que je suis en responsabilité RH, et puis aussi j'ai un aspect budget, les finances pour mon service, etc. Donc quels sont finalement mes domaines de responsabilité? Et ça, c'est plutôt l'horizon 2. L'horizon 2, c'est les domaines de responsabilité qui peuvent être sur le plan personnel. Alors on ne va pas appeler ça des domaines de responsabilité, mais on va appeler ça peut-être des domaines d'intérêt ou des domaines d'attention. Je veux m'occuper de ma santé aussi. Alors pour ma santé, c'est quoi? C'est peut-être faire de l'exercice, c'est peut-être aussi veiller à ce que je mange, ma nutrition. Je suis en charge dans cette association de m'occuper de certains jeunes. Ben voilà, ça aussi, c'est une zone de responsabilité. Voilà. Et donc ces objectifs vont se décliner dans ces zones de responsabilité. Et là, on va pouvoir descendre encore d'un cran sur la notion de projet. Et on rejoint les projets au sens de GTD, les projets qu'on avait vus dans le dernier podcast. Parce qu'un projet, c'est quelque chose de tout simple du point de vue de David Allen. C'est quelque chose qui va être atteint en quelques étapes, en plus d'une étape en tous les cas, et puis qui va avoir une durée de vie de quelques semaines à quelques mois. Et pourquoi on dit ça? Parce qu'un projet, lui, il est subdivisé en actions et on retombe sur l'horizon zéro, c'est-à-dire mes fameuses actions élémentaires, mes premières actions, parce que ni toi ni moi, on a réussi à résoudre un projet ou à atteindre un projet, atteindre le résultat qu'on s'était fixé pour un projet, sans passer par la première étape. La première étape pour ce podcast, c'est parce qu'on a échangé des emails. Et peut-être la deuxième étape, c'est parce qu'on a échangé aussi par téléphone, etc. Puis à la fin, le podcast sera réalisé. Mais ça, on voit bien que c'est une succession, finalement, de premières étapes qui vont s'enchaîner les unes après les autres. Voilà, je ne sais pas si j'étais un peu long sur ça.
Non, c'est vraiment intéressant. En fait, on voit que dans la première partie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on part de notre quotidien, de ce qui nous assaille, etc. On l'organise et quelque part, on lui donne une existence papier. Enfin, ou plutôt, on peut le regarder, du coup, parce qu'on l'a... On l'a classé, on l'a sorti de son état et on l'a transformé en quelque chose d'activable. Ça, c'est le niveau zéro, en fait, dont tu parlais. Et ensuite, il part de tout en haut et il décline en revenant à ce niveau zéro. Et je suppose que dans notre quotidien, du coup, le fait d'avoir fait ce travail sur les 5 horizons, ou c'est comme ça qu'on les appelle, c'est les 5 horizons.
Oui.
Sur le travail des 5 horizons, ça va nous permettre aussi de prioriser pendant notre journée. C'est-à-dire de se dire, bah ça, comme je peux le rattacher à ce projet qui fait partie de mon niveau 1, bah c'est peut-être quelque chose que je dois faire plutôt qu'une autre chose qui n'est rattachée à aucun projet.
C'est tout à fait vrai ce que tu dis. Des fois, je ne sais pas si ça t'arrive, je ne sais pas comment prendre cet email, je ne sais pas comment, quelle tournure donner à mon texte, comment réagir par rapport à la proposition qu'on est en train de me faire. Et j'ai besoin de maturer les choses. Qu'est-ce qui se passe dans ce process de maturation ? Finalement, toi et moi, on va remonter dans ces horizons et on va se dire, mais il me demande de faire ça ou il me sollicite sur ça, mais finalement, est-ce que ça m'incombe? Est-ce que ça fait partie de ma fiche de poste, mes domaines de responsabilité? Et puis si là, je n'arrive pas à trouver de réponse, je vais encore monter d'un cran. Honnêtement, est-ce que ça fait partie de mes objectifs? Est-ce que ça m'intéresse, ça, de m'engager dans ce qui m'est proposé dans cet email? Et si j'ai encore du mal, peut-être je peux monter encore d'un cran et je vais à l'horizon de la vision. Sur le long terme, est-ce que je me verrais bien travailler dans ce domaine-là ou, tu vois. Et puis même à l'inverse, là je vais remonter complètement au niveau le plus haut, la raison d'être et mes principes. Parce que ce qu'on me demande dans cet email, finalement, c'est pas tout à fait en cohérence avec mes principes. On me demande de faire quelque chose, je suis pas à l'aise, ça me semble un peu tordu, je préfère dire non. Et tu vois, en remontant dans ces horizons successifs, tu es en capacité, finalement, de maturer, et ça va, quand tu vas redescendre au niveau de l'écriture de ton email, finalement, tu vas avoir les idées claires.
Et ça te donne la capacité de dire non. En fait, c'est ça, hein, c'est une des questions qu'il faut se poser en permanence quand on est dans notre quotidien, c'est surtout quand on est un manager, surtout quand on est un peu entre moi je dis souvent entre le marteau et l'enclume, c'est pas une belle image, mais entre les sollicitations de notre direction et les sollicitations de nos collaborateurs ou de nos clients, etc. Et c'est la capacité à dire oui ou à non qui va, à dire oui ou de dire non qui va déterminer notre efficacité. Parce que si on fait quelque chose à un instant T, on ne fait pas autre chose. C'est-à-dire que toutes les tâches que vous allez accepter maintenant, ce sera au détriment d'autres tâches que vous ne pourrez pas faire à ce moment-là. Et donc, avoir un outil comme ça, très pragmatique, qui permet de dire bah là, je dis non, et de pouvoir le justifier, ça aide vraiment à prendre cette décision, en fait, de faire ou de ne pas faire.
Oui. Et puis, vas-y.
Il y a un autre, pardon, un autre élément, mais je ne veux pas, couper le fil de ta démonstration, mais il y a un autre élément dont je me rends compte là en t'écoutant, c'est que consciemment ou pas, quand j'ai créé la formation Management par objectif, en fait, c'est quasiment la démarche que j'ai faite sans m'en rendre compte. C'est-à-dire que autant sur la partie organisation personnelle, je vais plutôt parler du niveau zéro, c'est-à-dire bah, comment vous faites pour sortir la tête de l'eau au quotidien et ensuite remonter vers quelque chose de plus organisé. Autant quand je parle du management par objectif, c'est-à-dire la manière pour aligner les objectifs et les actions des personnes dans une entreprise, j'ai plutôt la démarche que tu as décrite. C'est-à-dire que je parle de l'état actuel de l'entreprise et de la vision qu'elle a, en ayant d'abord pris ses principes. Ensuite, on détermine les objectifs. Ensuite, on détermine, on sélectionne ces objectifs. Et ensuite, on arrive justement au mode projet. Et ensuite, on décline le mode projet à chaque personne. Il y a vraiment un parallèle là qui est facile à faire entre une entreprise et une personne qui doit s'organiser.
D'ailleurs, c'est ce que je rencontre assez souvent en coaching. Donc j'accompagne des dirigeants d'entreprise sur ces questions-là. Et évidemment, on commence pendant les premières séances par la reprise du contrôle, donc ce que j'ai expliqué à l'horizon zéro, par rapport à tous ces engagements. On en arrive jusqu'à avoir, et ça c'est intéressant, l'inventaire complet de ces projets. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que au moment où j'ai cet inventaire complet que je suis en capacité d'accueillir de nouveaux projets ou de mettre des choses en sommeil. Si on n'a pas une vision claire sur l'ensemble de ces engagements et que tu me demandes de faire un nouveau projet avec toi, alors je serais peut-être tenté parce que le projet est intéressant, mais en même temps, derrière mon esprit, là, je suis en train de me dire mais est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je vais suffisamment avoir de temps là, sur les 3 mois qui viennent ? Tu vois, je ne suis pas très, très au clair sur ça. Donc, le niveau projet. Et quand on arrive en fin de coaching, on travaille sur les horizons. Et très souvent, cette partie-là, c'est un peu quelque chose qui donne de l'espace, qui donne un regard neuf à ce dirigeant. Parce qu'on travaille sur ses responsabilités, qu'est-ce qu'il est censé faire dans sa boîte, au niveau où il se trouve, et à l'aide de mind map, là, de carte mentale, on identifie les différentes sphères et on rattache ses projets à ces sphères-là. Et ça le conduit inéluctablement soit à dire bah, « Tiens, il y a cette sphère-là où je n'ai pas de projet qui est actif, est-ce que c'est vraiment une responsabilité que j'ai ?» Et oui, au poste où il est dans sa société, il est censé s'occuper de cet aspect-là. Mais quand il s'aperçoit qu'il n'y a pas de projet, ben, ça le questionne. Il se dit qu'il va falloir lancer des choses, peut-être mettre des équipes dessus, etc. Ou à l'inverse, s'apercevoir qu'il a trop de projets dans une certaine sphère et à ce moment-là de réduire la voilure.
Et ce qui est marrant, enfin, je ne sais pas si c'est toi aussi ton expérience, c'est que très souvent, enfin, moi, il y a un exercice que je faisais systématiquement quand je faisais ce genre de choses en coaching dans les entreprises, c'est que je disais, bon, on va regarder un petit peu vos objectifs ou ce qu'on attend de vous. En gros, ça dépend du niveau de la personne que je coachais, mais ça peut être la fiche de mission ou ça peut être les objectifs en général, etc., etc. C'est-à-dire quand je demandais à la personne, bah, en fait, c'est quoi vos responsabilités dans l'entreprise? Qu'est-ce que vous êtes censé faire dans l'entreprise, etc., etc. Et la personne m'explique, donc on notait ça d'un côté. Et ensuite, on prenait son agenda. Et on regardait les trois derniers, les derniers mois, et on comparait en fait l'agenda avec la liste qu'il m'avait fait juste avant. Et souvent, il y avait une énorme divergence. C'est-à-dire qu'entre ce qu'il était censé faire ou qu'elle était censée faire, et entre la réalité, il y avait quasiment, enfin en général, c'était 20%. C'est-à-dire que 20% de l'agenda correspondait à ce que la personne pensait qu'elle était censée faire. Et elle avait... Tant qu'on n'a pas fait cet exercice-là, on s'en rend pas compte. Tant qu'on n'a pas fait cet exercice-là, en fait, on a un malaise. On comprend pas. On se dit, c'est bizarre, j'y arrive pas, j'ai l'esprit confus, c'est chaotique, j'ai l'impression que je vais nulle part, etc. Et rien que faire cet exercice, hein, et chacun peut le faire, c'est assez révélateur. Toi, le processus, pour comprendre comment ça s'articule, parce que Là où, c'est-à-dire quelqu'un qui voudrait se mettre à la méthode GTD, bon, la première partie, on a compris, hein, il faut comprendre comment ça marche, il faut s'y mettre, etc. Là où c'est un peu plus moins clair pour moi, c'est la deuxième partie, celle ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire avec les cinq horizons. Comment ça se construit, en fait? C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'il faut faire tout le temps, c'est quelque chose qu'il faut faire à un moment, et puis une fois que c'est fait, c'est réglé, c'est quelle fréquence, en fait. Comment on met en action, en fait, cette partie-là?
C'est une bonne remarque. Alors, je vais te répondre à deux niveaux. Tout d'abord, au plan personnel, en tant qu'individu, et puis ensuite, au plan de l'entreprise, puisque je pense que ça intéresse aussi, les deux aspects intéressent les auditeurs.
Bien sûr.
Au plan personnel, c'est quelque chose, en fait, plus tu vas monter dans les horizons, plus c'est quelque chose que tu vas espacer. C'est-à-dire que ton calendrier, horizon zéro, ton calendrier, tu le regardes tous les jours et même plusieurs fois par jour. Et puis après, tu as une liste de projets. Et cette liste de projets, bah, tu vas la regarder une fois par jour, tu vas la regarder plusieurs fois par semaine. Et ça, c'est classique pour voir si les choses avancent. En particulier, le projet, je reviens sur l'étape 4 de tout à l'heure, tu vas la regarder, cette liste de projets, attentivement, dans ta revue hebdomadaire.
D'accord.
Et puis, on passe à l'horizon... Alors là, les projets, c'est l'horizon 1. Mmh. On passe à l'horizon 2.
Ah, excuse-moi, j'ai juste une question sur les projets. En fait, quand tu dis « tu regardes », qu'est-ce que ça veut dire? Tu regardes ou tu regardes et tu changes et tu fais évoluer?
Oui, c'est ça.
D'accord.
C'est ça. Alors, on en avait un peu parlé.
Je peux revenir.
Exactement. Mmh. Cette revue hebdomadaire, c'est « je vais scanner l'ensemble de mes projets ». Je vais vérifier que pour l'ensemble de mes projets, j'ai bien une première action qui est identifiée. Un projet qui n'a pas de première action, c'est un projet qui végète. Alors à ce moment-là, il n'est pas dans la liste des projets. Il est dans la liste soit des choses que tu veux mettre justement en attente, tu mets de côté, soit s'il n'a pas d'action et qu'il devrait en avoir une, à ce moment-là, tu en définis une au moment de ta revue. Et peut-être qu'il y a aussi un travail de rafraîchissement à faire. Tiens, il y a le projet A, j'avais mis la première action, c'était d'appeler un tel, mais finalement non, les choses ont changé, il va falloir plutôt que je travaille sur la définition de l'ordre du jour de la prochaine réunion, une fois que j'aurai ça, je l'appellerai, mais pas avant.
D'accord.
Voilà. Donc ça, c'est les projets horizon 1. L'horizon 2, ce qu'on appelle les domaines de responsabilité, il est bien d'y revenir périodiquement, mais là, je dirais, peut-être à une fréquence soit tous les trimestres, soit tous les semestres. Parce que c'est quelque chose où tu vas... tu l'as bien compris, tous ces horizons, même si je ne l'ai pas mentionné, c'est quelque chose qui nous pousse à de l'alignement.
Bien sûr.
Il est sûr que je vais pas avoir des projets qui vont dans une certaine direction et puis des objectifs dans une autre direction et ma vision elle serait dans une autre direction encore et ça c'est à 90 degrés par rapport à mes principes et ma raison d'être. Non, j'ai envie si je veux me faire plaisir et si je veux être efficace et si je veux être performant dans ce que je suis censé faire, que ce soit dans le domaine du travail ou dans le domaine de la vie personnelle, il faut que ça se soit aligné. Et je serai la meilleure version de moi-même lorsque j'aurai justement cet alignement.
Bien sûr. Tes ressources seront consacrées à ça et c'est encore une fois la capacité à prioriser, en fait.
Oui, c'est ça. Et puis je serai cohérent en tant que personne et je serai cohérent et puis je me ferai plaisir, tout simplement. Le nombre de fois où on a été obligé pendant un certain temps, quelques 6 mois, 1 an ou plus, de travailler sur des choses qui n'étaient pas vraiment dans notre axe. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de gens qui, aujourd'hui, sont interviewés et que j'ai entendu soit dans d'autres podcasts, soit sur Internet, etc. Et qui disent, ben voilà, j'ai été formé en tant qu'ingénieur, mais moi, ce qui me plaisait, c'était pas du tout ça. C'était les aspects peut-être management ou les aspects sociaux. Et puis finalement, ils donnent leur lettre de démission alors qu'ils ont des très très bons postes. Et même des gens qui sont jeunes qui font ça. Ben on voit bien qu'il n'y a pas du tout un alignement par rapport à qui ils sont, entre ce qu'ils sont, à quoi ils aspirent, et puis ce qu'ils font dans le quotidien ou les responsabilités qu'on leur a confiées.
Puis je pense qu'on a différents moments dans notre vie. C'est-à-dire que, comme tu le dis, le niveau 2, c'est les domaines de responsabilité, et on va faire des choix. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avancer sur tous les domaines en même temps. Par moment, on met un domaine un petit peu au ralenti parce qu'on a envie d'avancer sur autre chose. Typiquement, en ce moment, c'est ma carrière qui compte, etc. Bah, je vais peut-être un peu moins développer la sphère amis, etc., etc. parce que je suis à fond sur mon job ou l'inverse, etc., etc. On amende un petit peu, on fait des choix.
Tout à fait. Alors, je remonte au-dessus des domaines de responsabilité et on a les objectifs. Et moi, je sais que j'ai une liste, bien sûr, qui s'appelle H3, Horizon 3, où j'ai mis mes objectifs. Et ça, cette liste-là, je la revois tous les ans. D'accord. En général, je fais ça, j'aime bien faire ça dans la période de Noël, parce que, si tu veux, il y a la bascule année civile, bien que l'année civile ne me parle pas trop, puisque je travaille plutôt en année académique. Ouais. Mais en tous les cas, c'est une période de l'année un peu particulière. Je suis chez moi. Je peux prendre du temps, je suis plutôt au calme, et puis je réfléchis sur ma vie. Et d'ailleurs, j'encourage aussi les auditeurs, parce que je l'ai fait pendant pas mal d'années avec ma famille, donc j'ai 2 enfants, et on faisait ça en famille, à un moment donné, on appelait ça un conseil de famille. Et puis la parole était ouverte, et puis on disait, mais qu'est-ce qui vous ferait plaisir dans cette année? Il y a une nouvelle année qui commence, quelles sont vos idées? Alors évidemment, on n'était pas dans la censure dans un premier temps. Après, il fallait être réaliste parce qu'on voit bien que ces objectifs, ils vont se décliner en projets, etc. Et notamment, ça donnait lieu à... Tu vois, quand tu as les enfants qui grandissent, alors au début, tu leur demandes pas ton avis que des vacances que tu vas faire l'été suivant. Mais après, quand ils sont ados, si toi, tu vas à un endroit et puis que eux trouvent ça ringard, tu es un peu en tension, quoi. Et donc, tu construis ou tu co-construis avec eux les choses. Et là, ça se matérialise, ça s'identifie dans cette partie H3.
D'accord.
Les objectifs.
Puis c'est un peu le moment des bonnes résolutions aussi.
Exactement, exactement.
Donc c'est bientôt là, tu vas bientôt pouvoir.
Voilà, oui. Et la vision.
D'ailleurs, je ne le dis pas pour rien, c'est bientôt. C'est que la vertu, c'est effectivement que régulièrement tu remettes ça sur le tapis, mais la vertu, c'est aussi que tu ne le remettes pas en permanence sur le tapis. Moi, je vois ça souvent. Moi, je parle plus du management par objectif. Quand on remet en permanence nos objectifs en question parce qu'on a un obstacle, c'est pas bon. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un moment où on se pose et on décide et ensuite on fixe des objectifs et qu'on se dise ces objectifs, ils sont fixés pour la période à venir et à la moindre difficulté, je ne les reverrai pas. C'est-à-dire que je vais essayer de les faire quand même malgré les difficultés. Hein, parce que comme on a un monde qui change beaucoup, tu le disais tout à l'heure, quelquefois c'est un prétexte pour changer en permanence d'objectif. Et ça, pour une entreprise ou pour une personne, c'est très dangereux. C'est-à-dire qu'il faut avoir le juste équilibre entre, oui, là vraiment c'est un obstacle insurmontable et peut-être je me suis planté au niveau de mon objectif, mais pas systématiquement dès qu'on a... Parce que moi je vois pas mal ça aussi avec les sollicitations du web et les projets et les choses qui changent. Il y a des gens, c'est des vraies girouettes, c'est-à-dire que les objectifs changent tout le temps. Et quand les objectifs changent tout le temps, ça veut dire qu'on n'a pas d'objectif.
Exactement. Ça, c'est le danger. Tu as tout à fait raison. Et c'est bien parce que tu as fait la transition aussi avec le monde de l'entreprise. Là, je parlais au niveau de moi en tant que personne. Au niveau de l'entreprise, on fait exactement la même chose. Là, je viens d'ouvrir sur un écran les objectifs pour une Excel 6. Mmh. C'est des objectifs qu'on va déterminer peut-être par catégorie. Là, je vois fonctionnement interne. Quels sont les deux, trois objectifs en matière de fonctionnement interne ? Pour le commercial, quels sont les deux, trois objectifs dans la dimension commerciale de notre entreprise ? En termes de communication, quels sont nos deux, trois objectifs, etc. Ça, c'est un travail donc, qui se fait plutôt sur une fréquence 12 mois. Je pense que c'est la bonne fréquence. On peut remonter à l'horizon 4. L'horizon 4, c'est la vision. La vision, on l'a vu tout à l'heure, c'est quelque chose qui est à plus long terme. Si on veut schématiser, ça peut être de l'horizon 5 ans, 4-5 ans, c'est bien comme ça. Alors on peut aller plus loin, notamment si on fait des prévisions, une entreprise à 10 ans, mais en général, on fait plutôt des aspects stratégie à 5 ans. Et cette vision-là, ça correspond au plan personnel à des étapes de vie. Tout à l'heure, je parlais de la notion des enfants. Il est clair que les enfants, ils rentrent à un moment donné dans l'étape d'adolescence, et ils sont quoi ? Ils sont en collège-lycée, et puis après, ils passent dans la partie études supérieures, et là, on voit à nouveau, c'est grosso modo, c'est une étape qui va durer 4-5 ans, et puis après, toi, tu veux les propulser dans la vie, tu veux qu'ils se lancent dans leur métier, etc. Et tu vas les accompagner différemment à chacune de ces phases-là.
Bien sûr.
Et donc, ta vision, telle que tu vas la définir, au moment où tu as l'enfant qui rentre en sixième, ta vision, à un moment donné, c'est que si tu veux aller jusqu'au bac pour cet enfant, ben, ça va être, bien sûr, le brevet des collèges et puis le bac. Donc, tu as une vision qui ne sera pas la même que celle que tu vas avoir au moment où tu le lances à l'université ou en école d'ingénieur ou en école de management et où là, tu vas avoir une perspective 5 ans plus tard, au moment où il sera diplômé. Et bien nous, sûr. Ici aussi, j'ai sous les yeux là, la vision pour notre société Inexcel 6. Quels sont nos objectifs ? Enfin, notre vision, ça peut être en termes de chiffre d'affaires, ça peut être en termes de volume de formateurs avec lesquels on travaille, ça peut être en termes de bien-être des salariés dans la société. Tu vois, c'est des choses qui sont plus macro, mais ça, tu as aussi sans doute l'habitude de voir bien ça. Sûr. Donc nous, on travaille avec les entreprises pour définir ces choses-là. À chaque fois, on voit qu'on ne se place pas au même niveau de réflexion, et surtout ce qu'on voit. Pourquoi est-ce qu'on parle de ces horizons différents, là, 1, 2, 3, 4, 5, avec l'horizon 0, bien sûr, pour le terrain. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'on les a inventés, c'est parce que toi et moi, on fonctionne comme ça, et les entreprises aussi fonctionnent comme ça. On voit que ça correspond à une réalité de vie. La notion de vision à 5 ans, que je viens de décrire en termes personnels, ou la vision d'objectif qui est plutôt 12-24 mois, etc., c'est des choses qui sont inhérentes à notre pratique, soit en entreprise, soit en tant qu'individu.
Bien sûr.
Puis, le dernier niveau, l'horizon 5, la raison d'être. Finalement, quelle est la raison d'être ? Alors, j'en ai décliné une pour moi, un horizon H5 pour moi, avec un certain nombre de choses. C'est des choses qui sont inamovibles, c'est des choses qui sont caractéristiques, c'est des choses qui, si je transigeais sur ça, ferait que je serais plus Jean-Luc Koenig. Et au niveau de mon entreprise aussi, qu'est-ce que c'est ? Donc on a parlé, nous, et finalement tu rejoins la question des valeurs, hein, puisque peut-être que toi tu l'abordes dans tes formations sous l'angle des valeurs aussi, mais nous, ici, pour la raison d'être, c'est quelles sont les choses qui transcendent, qui traverse l'ensemble des choses qu'on fait dans notre entreprise.
C'est ton identité, en fait. C'est ce qui fait Exactement. Que tu es différent des autres.
Exactement.
Alors, j'ai une question, parce que, encore une fois, c'est une question assez concrète. C'est que, quand tu revois tes projets, donc quand tu es au niveau 1, que tu revois tes projets, du coup, tu revois tes tâches. Et ma question, c'est ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu modifies des choses dans un horizon, par exemple, on va prendre l'horizon 4, ce que tu vas modifier dans l'horizon 4 va modifier l'horizon 3, qui va modifier l'horizon 2, et ainsi de suite, je suppose. C'est comme des dominos.
Oui. Alors, à la fois, j'ai envie de répondre oui, et à la fois, j'ai envie de dire non. Et je vais commencer par le non. On n'a pas envie à chaque fois on n'a pas envie, à chaque fois qu'on réfléchit au niveau stratégique, tu prenais l'horizon 4, par exemple, l'horizon de la vision, de passer 2 journées et demie enfermées au vert pour tout réaligner si jamais on a bougé quelque chose.
C'est ça ma question, exactement.
Voilà. Donc on ne va pas être en permanence en train de réajuster. Par contre, c'est vrai que si on s'arrête, pour reprendre l'expression, si on se met au vert en tant qu'entreprise et qu'on réfléchit au niveau stratégique, eh bien on va se donner, dans les mois qui viennent, l'occasion de peut-être regarder à nouveau nos objectifs.
D'accord.
À 12-24 mois. Et puis, on va voir comment ça va se traduire pour chacun des collaborateurs dans mon équipe au niveau de ses responsabilités et au niveau de ses projets. Mais on voit que la fréquence de révision, il ne faut pas que si on... quand on va bouger un domino quelque part, on ne veut pas que tout se casse la figure et qu'à chaque fois, on soit obligé de tout revoir.
Oui, c'est ça la question. C'est pas un Big Bang. C'est-à-dire, c'est pas. Quand je suis à Horizon 4, ça remet tout en cause. Ça peut être. Enfin, peut-être ça peut être le cas. Si vraiment c'est un virage à 90 degrés, j'imagine que ça peut être le cas. Mais en général, c'est plutôt des ajustements réguliers.
Alors, oui, tu fais bien de le mentionner. C'est vrai qu'il y a des accidents dans la vie. Il y a des accidents. J'ai l'intention de, avec mon conjoint, on a l'intention d'acheter une nouvelle maison à tel endroit, et puis parce qu'on aimerait bien développer notre activité, il y a des activités ludiques qu'on aimerait bien faire, etc. Et puis à un moment donné, je sais pas, on sait pas, il y a une maladie grave, et puis évidemment, l'aspect objectif et l'aspect vision va être sérieusement remis en cause, et donc les projets derrière, on voit bien. Les projets vont en pâtir. Mais ça, ce n'est pas tous les matins.
Non, c'est clair.
Et c'est ça aussi l'avantage de GTD, si tu veux. C'est que comme les choses ont été identifiées, mises au bon endroit, dans les bonnes catégories, au moment où j'ai un pépin dans la vie, je peux facilement remonter sur... remonter en selle. Pourquoi ? Parce que je vais revoir... ces objectifs. Certes, il y a celui-là que je suis obligé transitoirement de laisser de côté, mais qu'est-ce qui est important pour moi ? Oui. Et puis si au niveau des objectifs, ce n'est pas suffisant, je reprends ma vision. Qu'est-ce qui est important pour moi ? Ah oui, cet item-là, 3 que j'avais identifié là, ça c'est important, et je vais m'accrocher à ça. Parce que voilà, mes parents sont vieillissants et que je vais les perdre peut-être, il y en a un que je vais perdre dans l'année parce qu'il y a un problème de maladie longue durée, etc. Et mon univers, mon monde va s'écrouler, mais en même temps, j'ai besoin de continuer dans les autres sphères. J'ai besoin de continuer en tant que parent, j'ai besoin de continuer, etc. etc. Et ce qui va me permettre de tenir, c'est que comme ça se décline jusqu'aux actions, quand je n'ai pas la capacité de réflexion parce que la vie m'a bousculé, eh bien, si sur mes listes, j'ai les actions que je dois engager pour faire avancer un certain nombre de projets qui, de toute façon, doivent avancer, eh bien voilà, je peux rentrer dedans.
Tout à fait, je comprends.
Le Covid, d'ailleurs, a été une occasion pour tout le monde de réajuster ses priorités au niveau le plus haut. On ne s'en est pas aperçu si on ne fait pas ce travail-là, mais nous, en GTD, ça nous a parlé immédiatement.
Oui.
C'est-à-dire que, par exemple, tes objectifs sur l'année de chiffre d'affaires... que tu le veuilles ou non, toi, les gens qui sont à côté de toi, moi, etc., eh bien, on a révisé cet objectif-là.
Tout à fait. Par exemple, tu peux réviser tes objectifs de chiffre d'affaires, mais pas réviser ta raison d'être, etc. C'est-à-dire que tu peux travailler sur d'autres choses, tu peux probablement plus faire de développement, mais par contre, tu peux travailler sur autre chose qui va te permettre d'être prêt à accélérer ton développement en sortie de crise, par exemple.
Ouais.
C'est qu'un exemple, hein. c'est pas possible dans tous les cas. Il y a un autre truc qui est vraiment très très bien, je trouve, dans la méthode GTD, qui est très important, j'avais effleuré le truc, c'est une espèce de prise de recul. Et en fait, d'avoir les choses, à chaque fois, c'est le même principe, qu'on soit dans le quotidien ou qu'on soit dans la stratosphère, au niveau 5, c'est sortir les choses de ta tête pour les mettre sur un support, que ce soit un support écrit, un ordinateur, etc. Et ça, c'est formidable, c'est ce que tu dis. Quand il t'arrive quelque chose, la première chose que tu peux faire, déjà, c'est écrire. Te dire, ben, qu'est-ce qui m'arrive pour pouvoir le regarder, pour pouvoir regarder la chose de l'extérieur, puis être dans la chose, pour la regarder de l'extérieur. Et ensuite, ce que tu peux faire, c'est la comparer à ce que tu as écrit avant. C'est ce que tu disais tout à l'heure, ta raison d'être, tes principes, ta vision, tes objectifs, etc. C'est-à-dire que quelque part, t'es moins pris dans le problème, t'es moins envahi par le problème, tu te positionnes presque que, comme quelqu'un d'extérieur qui regarderait ce qui est en train de se passer et qui essaierait de réconcilier tout ça. Il y a un grand souci de cohérence, en fait, dans cette méthode.
Oui, oui, oui. Tu as raison de le souligner. En fait, la méthode GTD, on parle de productivité, etc. Alors, oui, c'est vrai qu'on peut être plus productif, mais ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu, ce n'est pas d'en faire plus en 24 heures. L'enjeu, non. C'est d'avoir la clarté pour regarder ce qui se présente à moi au bon niveau. Mmh. Et en plus, si on rend ça conscient, qu'est-ce qui se passe quand on décrit là ensemble ces horizons d'attention ? C'est qu'on rend les choses explicites. Et si on les rend explicites, ces choses-là, je suis en capacité de les améliorer. Quand ça devient implicite, c'est-à-dire le Covid arrive et je vais réarranger, réorganiser ma vie, etc. Et on va le faire. De toute façon, n'importe qui va le faire parce qu'il est suffisamment secoué par cette crise pour devoir le faire. Sauf que si tu as rendu les choses explicites, tout de suite tu peux avoir une carte devant toi, alors sous forme d'une mind map ou sous forme d'une liste, peu importe le format, tu as une carte de tes objectifs et tu peux dire, pour les 12 mois qui viennent, je laisse tomber ça, je laisse tomber ça, je mets l'accent ici, je prépare la reprise, etc. etc. Et ça t'apporte de la hauteur de vue et de la clarté.
Ouais, pour toi. Et quand en plus tu as un rôle de manager ou de dirigeant, etc., pour les autres. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire, je pense, pour pour quelqu'un de se rendre compte que son responsable est paumé et qu'un jour il dit une chose, une fois le lendemain il dit autre chose, etc. Ça permet aussi de présenter une image, je dirais, rassurante et pas de surface, hein, pas rassurante de surface en disant juste oui, non, mais tout va bien. D'ailleurs, c'est pas ce qu'il faut dire, mais dire on a un plan. C'est-à-dire que oui, il se passe ça, mais voilà comment on va essayer de s'en sortir, voilà le plan. Et on fera tout pour faire réussir le plan. C'est important des deux côtés, c'est-à-dire que si vous êtes en cohérence à l'intérieur de vous, vous êtes aussi cohérent pour les autres, plus lisible, etc. Moi, j'ai une des premières qualités d'un manager, c'est la lisibilité. C'est-à-dire que même quand il n'est pas là, ses collaborateurs doivent pouvoir se dire « Ah bah, s'il était là, il aurait fait ça ». Et ça permet de donner une espèce de mode d'emploi de soi-même aux autres, ce qui est intéressant aussi. Mmh.
Et puis c'est tellement important pour l'entreprise. Si tu savais le nombre d'entreprises, de codir, qui n'ont pas les idées claires sur l'ensemble de ces horizons, c'est presque un peu affolant. Et ce travail-là, alors c'est très intéressant pour nous parce qu'on les accompagne dans ce travail-là, mais ce travail-là est nécessaire. Tu ne peux pas te présenter en codir, tu ne peux pas te présenter devant le PDG ou devant ton conseil d'administration si tu n'es pas en capacité de décliner l'ensemble des choses que tu fais selon ces horizons. Alors après, tu peux les appeler différemment, les horizons, peu importe, mais si tu n'as pas les idées claires sur ça.
Non, puis en plus, là tu parles du côté vers le haut, mais vers le bas c'est vrai aussi. C'est-à-dire que tu ne peux pas te pointer devant tes collaborateurs si tu n'as pas des idées claires et la marche à suivre, etc. Ça marche des deux côtés, en fait. Et c'est pour ça que ce que tu parles, l'alignement sur les horizons, ça c'est l'alignement personnel qu'on doit avoir, mais l'alignement, tu dois aussi l'avoir dans l'entreprise. C'est-à-dire que les différentes parties de l'entreprise doivent être aussi articulées autour de la même vision, autour des mêmes objectifs, etc., etc., avec chacun ses spécificités et ses domaines, mais néanmoins articulés et je dirais, cohérents entre eux. Sinon, les gens ne comprennent même pas pourquoi ils travaillent. C'est-à-dire, le sens de leur travail n'apparaît pas, puisqu'il est détaché du sens de l'entreprise.
Quand tu parles d'articulation, d'ailleurs, dans l'entreprise, entre les services ou au niveau des projets, etc., peut-être ça nous amènera un jour à parler des OKR, des objectifs et des résultats clés. Mais ça sera l'objet d'un autre podcast.
Oui, parce que c'est ce que tu me disais en off. Peut-être, si on a fini sur la partie GTD, on peut peut-être ouvrir là-dessus. C'est que, voilà, partie de tes compétences sont autour du Getting Things Done et sur les deux parties dont on a parlé, c'est-à-dire la partie très quotidienne, mais aussi la partie qu'on vient de voir dans le podcast. Mais tu m'as dit que tu avais un autre développement là, dans ta carrière. Est-ce que tu peux expliquer ça ?
Alors, je ne vais pas en dire beaucoup là parce que je suis dans une phase où je suis en début d'accompagnement d'une entreprise sur ces questions-là.
D'accord.
Et je voudrais revenir avec des éléments peut-être plus tangibles, plus factuels. Mm-hmm. Mais en deux mots, pour les auditeurs qui souhaiteraient creuser cette question, les OKR, les objectifs et les résultats clés, ça permet de regarder avec un œil qui est en capacité de mesurer l'atteinte des objectifs. Pas quelque chose qui va être très lourd, au contraire, c'est un processus qui est extrêmement léger. C'est quelque chose qui a permis à Intel, au départ, de décoller au moment où il y avait une compétition féroce sur les microprocesseurs, qui a été repris par Google, qui a été repris par Oracle. Et d'ailleurs, à chaque fois, les dirigeants de ces entreprises-là disent, c'est au moment où on a commencé à implémenter, d'ailleurs, il y a une vidéo qui est virale sur les OKR chez Google, au moment où on a commencé à implémenter les OKR dans notre société, que là, réellement, on a décollé. Et cette vidéo, elle est virale. Alors, c'est assez facile d'avoir des vidéos virales, des vidéos qui font 30 secondes et où tu vois un chat et un chien qui s'amusent ensemble, etc.
Cette vidéo-là, qui nous intéresse le plus ici.
Voilà, c'est pas ce qui nous intéresse, mais cette vidéo-là, juste tiens-toi bien, elle fait plus de 50 minutes. Et
d'accord.
Elle a été vue des centaines de milliers de fois. Je me demande même si on frise pas le million. Et donc, pour avoir des gens d'entreprise qui regardent cette vidéo pendant 50 minutes et qu'elle devienne virale, c'est que vraiment, il y a un potentiel là-derrière.
Ah, c'est sûr. Ouais. Moi, je ne connais pas la vidéo. Par contre, j'ai lu un ou deux livres là-dessus. Le nom m'échappe.
Ouais.
Un truc qui s'appelle... C'est pas Measure What Counts, mais je ne sais
si,
plus. Hein.
Exactement.
Ah,
c'est
oui,
ça.
C'est ça. Là. Et ouais. Sur le sujet, bon, c'est clair. Hein, Bon, c'est quelque chose, moi je pense qu'il a toujours existé dans les entreprises, mais le mérite des gens qui ont fait ça, c'est qu'ils en ont fait une méthode, et ils en ont fait quelque chose effectivement de très lisible, très clair et très simple.
Alors donc, pourquoi tu me posais la question, quel est finalement, en filigrane, tu me posais la question du lien avec GTD, enfin pourquoi est-ce que j'ai deux parties dans mes activités chez NXL6? C'est parce qu'il me semble important non seulement d'identifier, avec les managers, les collaborateurs, les cadres, d'identifier ce qui peut être mieux fait, mais c'est aussi de pouvoir mesurer ces choses-là, tout en donnant de la motivation aux uns et aux autres, et aux équipes, pour faire mieux. Parce que c'est pas du tout basé, tu connais le système des KPI, des fois c'est un peu des lettres au Père Noël, c'est-à-dire je vise quelque chose, mais j'ai pas la boucle de rétroaction qui fait que je peux... Je peux contrôler à quel point je m'achemine vers la finalisation correcte de ce que j'ai entrepris, ou en tout cas au bon niveau. Alors que là, c'est assez facile. La pression n'est pas du tout sur le collaborateur. C'est quelque chose qui se fait en équipe, même si on peut avoir des OKR pour des individus. Et c'est quelque chose qui, comme ça se co-construit, c'est quelque chose qui met en jeu toute l'entreprise. Et il y a une émulation qui émane là derrière ça, qui est tout à fait formidable.
Bon, bah écoute, c'est un excellent teasing que tu viens de nous faire.
Eh ben écoute, au plaisir.
T'as déjà, t'as déjà réservé ta place pour la prochaine fois. Donc, alors, n'attends pas deux ans hein, cette fois-ci. On va essayer de faire ça.
Non.
Enfin, je sais pas. C'est peut-être le temps qu'il faut pour
non,
l'idée
là.
Le truc, mais.
L'idée, si tu veux, si on peut se revoir peut-être au printemps ou à la fin du printemps, ce serait bien. Moi, de mon côté, j'aurai toutes les certifications et j'aurai pu accompagner quelques entreprises et donc avoir des exemples.
Des anecdotes
concret,
ou des choses comme
voilà,
ça.
Voilà, exactement.
Okay. Super. Eh ben, écoute, on a un rendez-vous flou qui est pris. On ne va pas fixer de date maintenant.
Voilà.
Alors, juste pour terminer sur la partie GTD, si ça vous a intéressé, si vous avez envie de poser des questions à Jean-Luc, etc., on a un forum maintenant. Donc en fait, ce qu'on vient de se dire, le podcast, vous pourrez aller l'écouter sur le forum et vous pourrez poser les questions en direct sur le forum. Jean-Luc, je te donnerai aussi l'adresse si tu as envie de réagir.
Bien sûr, tout à fait.
Aux questions que posent les gens. Pour conclure, peut-être tu peux nous dire comment on peut te contacter ou bien je remettrai ça peut-être sur le forum.
Oui, alors on peut le remettre sur le forum, mais en fait c'est très simple. La société s'appelle INXL6 et pour y accéder c'est inxl.fr, inxl.fr.
Inxl.fr, ok.
Voilà, ça c'est l'abréviation. On peut me joindre aussi directement par mail avec mon prénom.nom, donc jean-luc.koning, K-O-N-I-N-G, @inxl.fr. Et puis, je suis aussi très présent sur LinkedIn, donc n'hésitez pas à rejoindre mon réseau, et puis c'est avec plaisir que je donne des conseils, que je réponds aux questions. Je ne suis pas du tout avare de ça, donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi.
Bon, c'est super sympa. En tout cas, je te remercie infiniment de nous avoir consacré quasiment une heure, parce que je crois que tu as un planning assez chargé, je crois que tu as un train à prendre.
Oui, c'est fait.
Tu vas être à l'heure. Ok, ça marche. Merci beaucoup, Jean-Luc. Et puis,
merci
à toi.
Fois. À très bientôt. Au revoir.
Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez évidemment écouter le podcast précédent, donc c'est le podcast numéro 135. Et surtout, vous pouvez nous rejoindre sur le forum pour continuer la conversation. Je vous mets le lien dans le descriptif. Si jamais le lien n'apparaît pas, eh bien, pour aller sur le forum, c'est simple. Vous allez sur le site www.outildumanager.com et vous cliquez sur forum. À bientôt. Très bonne semaine. Alors, tu vois, je viens de faire un petit calcul. On a à peu près 3 millions de téléchargements du podcast et on a à peu près 890 avis sur le podcast. Bah, en fait, ça fait que 0,03% de personnes qui, après avoir écouté un épisode, ont laissé un avis. Je trouve que c'est pas un super pourcentage et je pense que vous pouvez être plus nombreux, quand un épisode vous plaît, à mettre un avis positif. Donc, surtout, n'hésitez pas, ça nous rend un énorme service et ça nous fait super plaisir. Merci.